Hello. Dans ce journal, on parlera des conflits sociaux, notamment à l'aéroport, où plusieurs vols pour les îles ont été annulés. Nous ferons le point, évidemment, politique aussi avec le Tavigny, et enfin, Jeux Olympiques pour terminer. Le journal de midi, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence avec cette grève à l'aéroport de Tahiti.
Oui, les négociations prévues ces derniers jours ont par deux fois été avortées. Vendredi d'abord, le directeur d'ADT étant absent, une réunion était programmée avec Orlan Diallo. Mais hors de question pour les syndicats de venir négocier avec la directrice des ressources humaines. Surtout qu'ils reprochent à la gouvernance RH d'instaurer un climat de peur et de défiance. Dimanche, le directeur d'ADT était bien là, mais pas de réunion non plus. Résultat, l'aéroport de Tahiti, Bora Bora, Rangiroa et Raiatea sont en grève. Une grève qui a immédiatement eu des conséquences sur une partie du trafic. L'essentiel des vols vers Raiatea, Bora et Rangiroa a été annulé. Les liaisons internationales et vers les autres îles ne sont pour l'instant pas touchées, si ce n'est quelques changements d'horaire. Charlie René, vous êtes à l'aéroport. Est-ce qu'on a de la visibilité sur les conséquences de ce mouvement ?
Eh bien, très peu, Lucie, comme d'ailleurs les passagers bloqués par cette grève. Ce lundi, ils seraient 1200 à être privés de vol uniquement sur les rotations d'Air Tahiti. C'est donc sans compter sur les passagers d'Air Moana, qui a beaucoup moins communiqué ce matin, mais qui a aussi annulé ses liaisons vers Raiatea, Boa et Rangi. Parmi ces passagers bloqués, 45% de touristes, dont beaucoup risquent de rater des connexions internationales, 55% de Polynésiens, dont certains sont bloqués loin de leur lieu de résidence. Air Tahiti assure tout faire pour les tenir informés de la situation, mais se dit impuissant sur la résolution de ce conflit extérieur à la compagnie. ADT n'a pas donné de chiffres officiels sur le nombre de grévistes, mais ce que l'on peut dire, c'est que la mobilisation est assez faible à Tahiti Faa pour épargner les vols internationaux, comme vous l'avez dit, et le reste du trafic domestique. Elle est en revanche très forte, quasiment 100% chez les pompiers d'aéroports de Rangiroa, de Raiatea et de Bora Bora. Chez Air Tahiti, on précise que ce genre de grève est considéré comme un cas de force majeure. Pas d'obligation de relogement, donc pas de facilité d'annulation, mais seulement des modifications de vol sans frais et du conseil d'hébergement pour les passagers bloqués. Ce sera donc difficile pour certains si le conflit dure, et Air Tahiti s'y prépare. Demain, c'est entre 15 et 20 vols qui pourrait être annulée, Lucie, cela représente un autre millier de passagers.
Merci beaucoup Charlie René. Effectivement, ces annulations ont des conséquences pour les voyageurs. On écoute Élise et Taema qui sont coincés à Rangiroa et n'ont pas eu beaucoup de nouvelles d'Air Moana.
Et puis sur Facebook, hier soir, par hasard, j'ai vu que j'ai entendu parler de la grève et Air Moana qui disait que peut-être les avions seraient annulés aujourd'hui. On n'a eu aucun message, ni mail, ni SMS de leur part. Et puis donc, on a été à la pêche aux infos et surtout, on a rendu notre Airbnb ce matin à 10h. Donc, on est à la rue. Et Air Moana, j'arrive à les avoir au téléphone et ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire. Éventuellement, écrire un message, un mail au service clientèle, chose qu'on a fait. Mais on leur a répondu dans 48 heures.
Du côté des négociations, ça n'avance pas beaucoup. Sur le piquet de grève, on parlait d'une réunion possible ce matin à 11h30, pas d'autres nouvelles. Mais ce n'est pas l'ambiance cordiale entre les syndicats et la direction qui se renvoie la responsabilité du loupé de dimanche. S'il n'y a pas eu de négociation, c'est selon les syndicats à cause de la direction qui n'avait envoyé aucune convocation écrite. Et selon la direction d'ADT, c'est à cause bien sûr des syndicats qui ne se sont pas présentés. On écoute Gwenaël Ronsin-Hardy, directeur d'ADT.
Donc ça a été une surprise puisque donc il y a une obligation de négocier et surtout voilà, on s'interroge sur la réelle volonté des parties de vouloir justement avoir un dialogue et de vouloir lever cette situation et d'avoir des échanges constructifs en vue de lever ce préavis de grève.
Et pourtant, il y a de quoi discuter. Les revendications dans le préavis sont nombreuses. Demandes de revalorisation des salaires, de recrutement, de titularisation et de formation. Défaillance dans la gestion du personnel. Non-respect des protocoles d'accord passés. Instauration d'un climat social de peur. Inquiétude concernant les conditions de transfert de l'exploitation des aéroports des îles au prochain délégataire du service public. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, le directeur se veut rassurant.
Le pays confirmait bien donc la reprise de l'ensemble des contrats de travail et de l'ensemble des acquis sociaux attachés dans le cadre de cette future de cet appel d'offres sur cette future délégation de services publics là-dessus. Donc on n'a pas eu le loisir justement de l'exposer à l'intersyndicale, mais cette information sera diffusée dans l'après-midi à l'ensemble du personnel d'ADT.
Sur le reste des revendications, le directeur d'ADT conteste les constats dressés par l'intersyndicale. Il n'y a pas de repli du dialogue social puisque pour lui, un certain nombre de sujets ont été traités. Et sur la dégradation des conditions de travail dans un aéroport vieillissant, les choses avancent, assure-t-il.
Il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés. Le personnel est largement mobilisé. On améliore la conformité, on améliore la qualité de service, on lance des travaux d'investissement, justement pour rattraper ce retard qui a été pris probablement aussi par le fait que la concession, avant sa remise en place, a pris un peu de temps. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un vrai dialogue social. Je ne peux entendre de dire que la situation s'est dégradée. Je dirais elle s'est plutôt améliorée. Même j'ai eu beaucoup de retours de personnel avec là-dessus et parfois même pour certaines incompréhensions par rapport à un certain nombre de points dans ce préavis.
Et donc pour terminer, on peut dire ce matin qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles du côté des négociations encore.
Et une autre grève se prépare à l'OPT cette fois.
Oui, les syndicats sont sur tous les fronts. La CSIP, le SAPOT, la CSTPFO, OETO, IRIMA et OTEI menacent d'arrêter le travail ce jeudi, deux jours avant le début des JO, et ce dans l'ensemble des filiales du groupe OPT. Cet intersyndical qui était déjà entré en action en octobre dernier fait plusieurs reproches à la ministre directement. Ils accusent Vanina Krolla d'avoir ces dernières semaines enfoncé le dialogue social. Selon les syndicats, elle a aussi fait preuve de mépris à l'égard du personnel et surtout elle exige au nom du gouvernement des coupes dans la masse salariale que les syndicats jugent inacceptables. Le préavis comporte aussi des demandes propres à certaines filiales, des revendications qui ne sont pas nouvelles. La même intersyndicale avait menacé d'une grève l'année dernière et un accord avait été signé en octobre, juste avant le départ de l'ancien PDG du groupe Jean-François Martin. Mais les économies de masse salariale ont été jugées bien trop faibles au regard de la situation financière de l'OPT par la ministre. La société est déficitaire de 2 milliards de francs sur la seule année 2022. Une situation très préoccupante pour Vanina Krolla qui rappelait sur TNTV que les agents du groupe bénéficient de 2 milliards de francs d'avantages annuels. Pile le déficit donc, et pour la ministre, une partie des primes de résultats ne sont pas justifiées au regard des pertes. Pour le syndicat, le personnel du groupe OPT ne peut être tenu responsable de la situation financière du groupe. Elle est plutôt la faute de l'ancien PDG avec la mise en place d'un nouveau système d'information dont le coût total devrait monter à près de 7 milliards de francs fin 2028. La faute aussi aux résultats catastrophiques des filiales Farerata, Marara Paiement et Onati et à des décisions d'investissement non rentables imposées à l'OPT, à l'instabilité de la gouvernance dans les filiales, au cadre réglementaire jugé injuste dans les télécoms pour l'opérateur historique ou encore au passage en perte de certaines créances du pays, des communes ou de l'État estimées par la CSIP à environ 300 millions de francs. Une réunion est prévue aujourd'hui dans l'après-midi et si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective ce jeudi, deux jours avant les Jeux donc.
Et dans cette ambiance sociale chaotique, les Jeux Olympiques approchent.
J-6 avant le début des épreuves de surf à Teahupo, l'Ifremer de Veirao a été transformé en centre opérationnel pour le Haut Commissariat. Jusqu'au 5 août prochain, c'est là que seront coordonnées les forces de sécurité et de secours pour les JO. À Teahupo, le filtrage routier et les contrôles des activités nautiques sur le lagon sont en place. Un dispositif qui doit parer aux risques en matière de sécurité, même s'ils sont bien plus importants à Paris qu'à Tahiti. Et d'ailleurs ici, les autorités craignent surtout des complications météorologiques, pas au programme pour l'heure.
Jeux olympiques toujours, avec la visite vendredi du premier village flottant olympique de l'histoire.
Oui, la Ranoui est à l'ancre depuis vendredi dans la baie de Veirao et attend les 19 délégations qui doivent séjourner à bord. Les médias ont été invités à visiter le bateau. Plusieurs zones sont réservées exclusivement aux athlètes, avec notamment un salon transformé en centre de fitness. Une nutritionniste a été sollicitée pour la préparation d'un buffet spécifiquement dédié aux sportifs. Julie Mauget, manager de ce village flottant olympique, explique tout ce qui a été mis en place. On l'écoute.
On est 150 personnes du staff. Il y a bien 120 personnes du staff à Ranoui et on est 12 de Paris 2024 avec aussi des volontaires. Et après, on accueille 21 délégations. Donc il y aura 110 résidents, personnes à bord. Ça va être vraiment un village exceptionnel. On a mis des animations en place tous les jours. On a fait des initiations tous les jours à 15h de tressage, de ricetti, de cuisine locale, avec des conférences également sur les requins, les baleines, la protection du corail pour vraiment comprendre l'écosystème de la Polynésie. Et après, quand ils rentreront de compétition, il y a un happy hour avec un groupe local tous les soirs de 18h à 19h.
Retrouvez les photos de cette visite sur notre site radio1.pf.
Une cérémonie culturelle s'est déroulée samedi du côté de Teahupo.
Elle avait pour but de bénir le site de la compétition olympique et de faire le lien entre tous les participants. Oreiro d'accueil, cérémonie du Hava sur la plage ou cérémonie du Tava'i ou cérémonie de l'eau sur la passe de Hawaï. Tour à tour, les surfeurs présents ont versé un peu d'eau de leur océan de chez eux. Ces célébrations ont lancé les 6 jours d'entraînement avant le début de la compétition. Et une autre cérémonie est prévue vendredi sur la fan zone de Papara Ouattara. Elle se déroulera en même temps que la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et enfin, concernant les tendances météo pour cette épreuve de surf des JO, des vagues surfables en compétition sont attendues dès le week-end du 27 et 28 juillet. Les conditions baissent ensuite pendant plusieurs jours avant un retour du swell entre le 2 et le 5 août à la fin de la période olympique. Mais ce ne sont que des tendances.
On ouvre une page politique avec une conférence de presse ce matin. Le Tavigny se méfie de l'UNESCO, Lucie.
Oui, c'est plutôt étonnant, mais vrai. Oscar Temaru avait invité la presse ce matin pour partager ses inquiétudes sur l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dossier vieux de 30 ans que le Tavigny lui-même a eu en main. Mais c'est donc 3 jours avant la décision finale que le président du parti Bleu Ciel fait part de ses réserves. Alors que 2 ministres, Taïwini Tehei et Roni Teripaya, ainsi que les Hakaiki des marquises, partent à New Delhi, où se tient la réunion de l'UNESCO. Oscar Temaru tenait à rappeler que les marquises ont aussi souffert des retombées des essais nucléaires atmosphériques. On l'écoute.
Je me suis dit, il y a des informations qu'il faut que la communauté internationale sache. À part nous, personne ne le sait. Parce que eux aussi, les jeunes ministres, les jeunes Hakaiki n'ont pas connu ça. On a l'impression que c'est une fois qu'on sera sur la liste de l'UNESCO, c'est nous qui allons gérer ça. Non, c'est complètement faux. Hein. Ça va faire partie du patrimoine de l'État. Et si on veut nous-mêmes intervenir au niveau de l'UNESCO, il faut qu'on soit un État souverain.
Il semble craindre que cette inscription au patrimoine mondial soit une occasion pour la France d'emmailloter les marquises. Il faisait référence à Mayotte qui avait refusé l'indépendance et est finalement devenu département français.
Politique encore, Lucie, avec quelques nouvelles de Paris et des députés polynésiens.
Oui, les députés de l'Assemblée nationale ont élu leur présidente, donc c'était vendredi. Yaël Braun-Pivet a retrouvé le perchoir. Les élus ont également été répartis dans les différentes commissions permanentes. Moerani Frébo est bien membre de la commission des lois, comme il le souhaitait. Nicole Sanquer est-elle dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation et pas dans celle des affaires sociales comme elle l'espérait. Mais surtout, c'est Mériana Red-Arbelo qui obtient un poste prestigieux. Elle a été élue secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. C'est la seule représentante des collectivités d'outre-mer dans le nouveau bureau et ce serait, d'après Moetei Broverson, la première Polynésienne à